Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France.
Bonsoir à tous, chers amis. Bienvenue dans les vraies voix qui font bouger la France. À partir de 19h30, parlons vrai avec les entrepreneurs. Vous retrouverez Stéphane Soumier en compagnie de ses deux invités sur Sud Radio et sur Bismart. Mais tout de suite, place aux voix de la politique. Nous sommes lundi soir de 19h à 19h30. Nous allons retrouver Nicolas Corato et Maxime Thiébaud ce soir au programme. Eh bien, un mot qui agite les médias, qui agite surtout le gouvernement et aussi les universitaires. L'islamo-gauchisme brocardé, dénoncé par la ministre Vidal à l'université, qui commande une enquête eh bien, pour se pencher sur les recherches menées dans ce pays, justement. Est-ce que ça existe, l'islamo-gauchisme ? Non, répond le CNRS. Oui, assure Jean-Michel Blanquer. On en parle dans un instant sur Sud Radio. Et nous sommes en direct sur Sud Radio avec nos deux invités. Maxime Thiébaud, bonsoir à vous.
Bonsoir Jean-Marie.
Vous êtes, je le rappelle, docteur en droit, auteur du livre « Gilets jaunes vers une démocratie réelle ». C'est publié chez VA Presse. Nous sommes également en direct sur Sud Radio en compagnie eh bien, de Nicolas Corato. Bonsoir à vous Nicolas.
Bonsoir Jean-Marie, bonsoir Maxime.
Et bienvenue sur Sud
bonsoir,
Radio.
Nicolas.
Vous êtes fondateur du think tank Place de la République et auteur du livre « Grandes plaidoiries et grands procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle ». C'est publié chez Eredium. Je le disais, chers amis, un mot agite le monde politique français depuis quelques jours. Islamo-gauchisme, un fait social indubitable, d'après le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Hier, dans le journal du dimanche, tout a commencé pourtant il y a une semaine. C'était avec sa collègue Vidal sur CNews. On l'écoute.
Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société.
Elle répondait à une question de Jean-Pierre Elkabbach sous le feu des critiques. Elle commande une enquête au CNRS sur les recherches universitaires menées dans ce pays et elle assume à l'Assemblée nationale.
Je vais demander effectivement à ce que l'on fasse un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays.
Est-ce qu'il y a trop de recherches qui succomberaient, comme elle le dit, ou le sous-entend à l'islamo-gauchisme ou pas ? Le CNRS a accepté l'enquête tout en jugeant que l'islamo-gauchisme, je les cite, n'était pas une réalité scientifique, l'exact contraire de ce qu'a dit le ministre de l'Éducation nationale hier. Alors, est-ce que ça existe ou pas ? Première question, je vous la pose à vous, mon cher Nicolas Corato.
Mais pourquoi vous commencez par moi ? Parce que je serais un islamo-gauchiste, c'est ça ?
Non, mais pourquoi vous ne le seriez pas ? J'aurais pu la poser
non,
à Maxime Thiébaud.
Bon,
est-ce que ça existe ? C'est quoi ?
D'abord, d'où ça vient l'islamo-gauchisme ? Ouais. C'est d'abord un terme qui malheureusement vient de l'extrême droite et ce n'est pas le premier terme venant de l'extrême droite que le gouvernement se réapproprie. On se souvient du séparatisme, on se souvient de l'ensauvagement. C'est devenu monnaie courante, donc... On a bien compris qu'Emmanuel Macron avait comme ennemi politique Madame Le Pen, mais à force de reprendre les mots de son ennemi, on en fait un allié objectif. Donc c'est le premier point. Après l'islamo-gauchisme, c'est comme le judéo-bolchevisme, je vais vous dire, hein, c'est la même histoire, c'est-à-dire c'est une manière de discriminer ou d'incriminer une partie de la pensée qu'on refuse d'une manière assez intolérante. Si l'islamo-gauchisme, c'est de considérer que les causes sociales sont plus importantes que la lutte contre une religion, si c'est considérer que l'islam ne menace pas ce pays, oui, alors moi je suis islamo-gauchiste parce que je préfère le progrès social à la vindicte religieuse, oui, et je préfère d'une certaine manière qu'on règle les problèmes par le social plutôt que par la lutte contre les religions. Oui, effectivement, c'est ça être islamo-gauchiste. Mais je vais vous dire, l'islamophobie, alors à ce moment-là, ça existe également, et j'aimerais bien qu'on fasse des enquêtes sur l'islamophobie dans notre société. Bref, tout ça est assez artificiel, malheureusement très politicien et assez nauséabond.
Maxime Thiébaud.
C'est dommage d'être à ce point aveugle. Mmh. C'est-à-dire que certes, il existe une islamophobie, certes, il existe des attaques contre la religion qu'est l'islam, mais il existe dans notre pays une réalité qui est celle que progressivement, la gauche a abandonné la lutte des classes pour se consacrer à la lutte des races. Et c'est ce qui existe malheureusement depuis la chute du mur de Berlin, sous l'influence notamment des universités américaines. Ça arrivait en France en grande pompe, sous couvert de la bien-pensance. Ça a irrigué l'ensemble de nos institutions, l'ensemble de nos entreprises. Petit à petit est arrivée l'idée de la discrimination positive. Petit à petit est arrivée l'idée que dans notre pays, l'essence précédait l'existence. C'est-à-dire qu'on devait être qualifié par nature pour ce qu'on était, blanc, noir, jaune, peu importe, avant même d'être défini par ce qu'on faisait dans sa vie. On le voit à l'Opéra de Paris, où aujourd'hui, il y a trop de blancs. Donc on va mettre quelqu'un qui va recruter des Noirs. Et progressivement, je finis ma démonstration.
J'allais revenir, Nicolas.
Progressivement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé des coupables et des victimes. Mmh. Et parmi ces victimes, il y a l'islamisme. Et une partie de la gauche, aujourd'hui, parce que l'islamisme est considéré comme une victime, est devenue complètement complice. L'UNEF, en 2013, combattait le fait que dans les universités, certains voulaient que le voile puisse être autorisé.
Il l'est.
Et oui, non, mais il combattait pour l'interdiction du voile dans les universités. En 2017, il s'est battu, l'UNEF, pour que le voile reste dans l'université. Il a élu à sa tête une personne qui porte le voile. Il a fait
dans
interdire...
Dans une université à la Sorbonne, pardon, interdire, juste pour une précision. Pour une précision factuelle, je vous redonne la parole juste après, Maxime. Vous parliez de Mariam Pouchetou, effectivement, qui est souvent montrée sur Internet, qui est une des responsables de l'Union nationale des étudiants de France dans une des universités parisiennes.
Et pire encore, et c'est le dernier exemple que je donnerai, il a fait interdire, et il se bat pour faire interdire toute expression qui viendrait tout simplement parler de l'islam. Et moi, je pense à Charb, qui avait été malheureusement l'une des victimes de l'UNEF.
Alors, j'ai compris en tout cas... Alors, non, pardon, Charb, qui est mort assassiné...
La pensée
par des...
Oui, non, pardon. Je parle de la pensée de Charb.
On va quand même préciser les mots aussi. Faut pas... Il n'y avait pas de membres de l'UNEF qui ont mené les attentats dans le
locaux de
Charlie
Hebdo.
Quoi qu'il en soit, Maxime, on va revenir un peu sur le sens du mot, justement. Qu'est-ce que vous mettez? Parce qu'il l'a relevé aussi, Nicolas. Vous parlez de couleur de peau, par exemple. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements antiracistes qui sont assez...
Non, c'est des mouvements racistes.
Mais très bien, qui s'intitule comme antiraciste. Quel est le rapport fondamental entre l'islam d'un côté et vous, vous parlez
Parce
de la couleur de peau?
Vous avez aujourd'hui des coupables qui représentent ce qu'est l'Occident. Le mâle blanc, la femme blanche. Vous avez des victimes. Toute personne qui n'est pas blanche, qui n'est pas un mâle, qui n'est pas une femme blanche, et encore la femme blanche devient de plus en plus un coupable, ou toute personne qui est d'une religion qui est laïque ou chrétien. Et malheureusement, progressivement, on a vu des discriminations se mettre à l'encontre de ces personnes. Aujourd'hui, vous pouvez être christianophobe. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pratiquement aucune inculpation lorsque vous êtes christianophobe.
On a toujours pu l'être d'ailleurs dans ce pays.
Toute critique de l'islamisme est tout de suite montrée du doigt comme de l'islamophobie, avant même qu'on se pose tout simplement la question « Pourquoi ?» Et moi, ce qui me dérange, c'est que les pires atrocités dans l'histoire du monde ont toujours été faites sous couvert de justice et de bien-pensance. À une certaine époque, il était juste, il était bien-pensant d'en vouloir à la famille Rothschild. Et on a vu les pires atrocités arriver en Europe. Aujourd'hui, il est juste, il est bien-pensant de s'en prendre au mâle blanc. Peut-être que demain, on verra les pires atrocités. Et ce qu'on voit sur nos frontons, sur les frontons de nos mairies, liberté, égalité, fraternité, ce sont des mots qui n'auront aucune valeur si on n'est pas capable de se battre pour les défendre.
Nicolas.
Oui, c'est intéressant. On est en pleine confusion des genres, c'est-à-dire qu'on est en train de traiter de racistes des gens qui ont toujours combattu le racisme. On est en train de dire qu'il y a une chasse aux sorcières alors que c'est la ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de l'Enseignement tout court ont bien demandé une enquête sur ces milieux islamo-gauchistes, c'est pas eux qui ont demandé une enquête sur les autres milieux d'enseignement. Et par ailleurs, je crois vraiment il faut revenir à la base. Être de gauche, c'est croire à la lutte contre le déterminisme social. Être de gauche, c'est penser que la religion avilit l'être plutôt qu'elle ne le libère. Donc la gauche n'a aucun problème avec n'importe quelle religion. La gauche a toujours combattu comme un fait social les religions, tout en étant tolérante avec l'expression des religions dans l'espace privé comme dans l'espace public. C'est ça être de gauche. Il n'y a pas de compromission avec n'importe quelle religion. Les religions sont des obstacles à la libération de l'individu et l'ont toujours été. Ce qui n'empêche pas de dire, en fait, être islamo-gauchiste aujourd'hui, c'est quoi? Et moi, je refuse le terme. Mais si être islamo-gauchiste aujourd'hui, c'est considérer que la question de l'islam n'est pas l'alpha et l'oméga de notre débat public, alors oui, je suis islamo-gauchiste. Parce que je pense que notre pays a de graves problèmes sociaux. Notre pays a de graves problèmes sociétaux, notre pays a de graves problèmes économiques, culturels, et que tout cela, c'est trop facile, ne se résout pas à une lutte contre une religion, quels que soient les problèmes qu'elle peut poser de manière radicale lorsqu'elle est exprimée de manière très radicale. Mais voilà, j'ai envie de dire, Maxime est un garçon et un homme très intelligent et très modéré, quoi qu'il fasse paraître, je ne comprends pas comment on peut aller dans cette impasse culturelle, dans cette impasse philosophique-là et dans cette impasse politique. C'est trop facile. C'est trop facile de résumer nos débats publics à la question de l'islam, même si ça vous arrange.
Maxime. Nicolas, le problème, c'est la relation au réel. Moi, j'adore cette idée-là de la gauche. Et je crois en une certaine gauche, et je crois en cette gauche républicaine universaliste.
Ben venez, on vous attend. Venez chez les islamo-gauchistes, on recrute.
Mais croire en la gauche universaliste, Croire en l'universalisme de la gauche n'interdit pas de voir malheureusement la dérive d'une gauche qui est devenue séparatiste, d'une gauche qui est racialiste, d'une gauche qui est indigéniste. Nicolas, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas en colère quand vous voyez une partie de la gauche soutenir Black Lives Matter, qui est l'une des formations qui, malheureusement, a fait énormément de mal aux États-Unis, vous ne pouvez pas dire...
Ça, c'est votre point de vue. Ça, pourquoi pas, vous avez le droit, on a le droit d'en débattre, l'un et l'autre. Ceci dit, dans un instant, Maxime, vous me répondrez aussi à cette question. Question que vous a déjà posée Nicolas Corrato. Quel est le rapport, dans ce cas-là, entre l'islam, puisque vous dites islamo-gauchiste, et Black Lives Matter aux États-Unis, où il y a quand même moins de musulmans, probablement, qu'en France. Et vous m'expliquerez justement comment vous passez de l'un à l'autre. C'est les voix de la politique, justement. On parle d'un terme qui énerve tout le monde, en bien ou en mal, d'ailleurs, dans ce pays, islamo-gauchiste. Est-ce que ça explique, est-ce que ça existe ou pas ? Est-ce que ça s'explique aussi ? On en parle dans un instant avec Maxime Thiébaud et Nicolas Corrato. À tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique.
Les voix de la politique sur Sud Radio avec Maxime Thiébaud, docteur en droit, Nicolas Corrato, fondateur du think tank, Place de la République. Nous parlons de ce mot utilisé et défendu aussi bien par Madame Vidal que par Jean-Michel Blanquer, l'islamo-gauchisme qui gangrènerait la société, voire à minima l'université justement. Est-ce que ça existe ? Qu'est-ce que c'est ? De quoi parle-t-on ? On en débat avec Nicolas Corrato et avec Maxime Thiébaud. Petite définition malgré tout. On vous posait la question à l'instant, Maxime, du rapport que vous faisiez justement entre Black Lives Matter, c'est-à-dire un mouvement qui défend justement, qui lutte contre les violences policières contre les Noirs aux États-Unis, et l'islam en France. C'est quoi le rapport entre les deux ?
Pas l'islam, mais l'islamisme. Le rapport, c'est l'intersectionnalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on part du principe qu'il y a des dominants, de fait, et des dominés, de fait. Il y a des victimes, il y a des dominants. Le dominant, c'est l'homme blanc. Le dominé, c'est la personne de couleur, le musulman, c'est la femme. C'est toutes ces personnes qui, dans l'histoire, se sont construites ainsi. Et le problème de l'intersectionnalité, c'est que c'est quelque chose de global, qui ensuite a différentes branches, notamment l'islamisme, qui s'est servi de l'intersectionnalité. Parce que moi, je n'oublie pas que l'islamisme est avant tout un islam politique radical qui a pour ambition de conquérir. Bon. Et il s'est servi de la faiblesse de l'Occident sur l'intersectionnalité pour progressivement se faire des nouveaux alliés qui sont bien-pensants, qui considèrent qu'il y a une nouvelle domination d'une race blanche sur l'ensemble des autres races. Alors que, moi, ça me choque complètement. Je ne vois même pas comment on peut réfléchir ainsi, comment on peut concevoir qu'il y a des races.
Mais ça, c'est l'intersectionnalité. C'est l'intersectionnalité. Dans les études intersectionnelles, il y a beaucoup d'études qui se penchent sur le genre, qui se penchent sur l'homosexualité, qui se penchent sur la transsexualité.
Oui, mais ça, c'est bien.
Maxime. Quel est le rapport entre un salafiste et un militant, dans ce cas-là, LGBT ?
Non, mais qu'on étudie en tant qu'universitaire. L'universitaire, il fait jouer des thèses. Il essaie de trouver le réel en fonction de différentes thèses. Le problème aujourd'hui qu'on a à l'université, c'est qu'ils ne font plus jouer des thèses. Ils défendent une doctrine.
L'université ?
Non, mais une partie. Et c'est ce que Madame Vidal, de manière un peu cavalière, et je pense pas très juste, a défini d'islamo-gauchisme. Ouais. Mais le problème est plus global. Quand par exemple l'Opéra de Paris vient dire « il y a trop de mâles blancs », c'est une des dérives. Mais non, il n'y a pas trop de mâles blancs ou de femmes blanches. Le problème, ce n'est pas celui-ci. Le problème, c'est la méritocratie. C'est comment on arrive à faire élever des gens par rapport à ce qu'ils arrivent à créer.
À donner les mêmes chances à tout le monde, en tout cas.
Mais c'est ça, l'égalité des chances. L'égalité des chances, ce n'est pas une obligation de résultat. L'égalité des chances, c'est une obligation de moyens.
Il y a malheureusement beaucoup de confusion. Et moi, je sens quand même un mouvement très réactionnaire qui voudrait nous expliquer que demain, toute personne qui invoquera le racisme sera un extrémiste ou quelqu'un de proche des islamistes radicaux. C'est quand même assez grave ce que vous êtes en train de propager comme doxa, parce que pour le coup, la loi majoritaire, la majorité d'idées, la majorité culturelle, c'est vous qui l'avez, Maxime. Pas nous sur le sujet, mais cette idée que les islamo-gauchistes, qu'à partir du moment où on défend l'antiracisme, on serait nécessairement un militant islamiste, me choque. Je voudrais vous parler de l'Opéra de Paris, parce que c'est intéressant sur la déformation du réel. Vous m'avez tout à l'heure invoqué ma propension à déformer le réel. J'invoque la vôtre. À l'Opéra de Paris, le problème, c'est pas qu'il y ait plus de mâles blancs. L'Opéra de Paris voulait revenir sur un procédé culturel qui a lieu depuis des siècles, qui est le procédé du négrillon. C'est-à-dire qu'à l'Opéra de Paris, sur les planches, lorsqu'un rôle de noir est joué, on prend une personne blanche et on la peint en noir, on la maquille en noir pour jouer le rôle. Et effectivement, aujourd'hui, cette méthode, qui est une tradition, peut-être artistique, peut-être culturelle, est remise en cause. Et après tout, que le débat naisse sur
ce sujet, deux pieds dans le
moi,
piège.
Ça ne me choque absolument
Nicolas.
Ça ne me choque absolument pas.
Vous prenez
pas.
Toutes les thèses racialistes.
Mais pourquoi pas que je vous dise qu'une fois,
parce que vous êtes
je comprends que des personnes noires s'émeuvent, effectivement, parce que vous savez, elles ont le droit d'aller à l'opéra aussi. Vous savez, on a le droit d'aller à l'opéra quand on est noir. Mmh. Et effectivement, je comprends que quand on est noir et quand on voit la représentation d'une personne noire en une personne blanche grimée en noir, effectivement, ça puisse, et que on a suffisamment aujourd'hui d'artistes de couleur noire pour faire ces rôles. Bah voilà, je ne trouve pas que le débat soit aussi embêtant, ennuyeux ou délirant que ça. Et je pense que là aussi, vous pourriez faire preuve d'une sacrée tolérance. Enfin, je vais finir sur le racisme et sur le racisme ordinaire.
Et on reviendra à l'université juste après
dans
pour parler des études.
Dans les études intersectionnelles, personne ne propose de changer les prénoms de Jules, Julien ou Nicolas en Mohamed, Sophia ou je ne sais quoi. En revanche, j'ai pas entendu la même chose d'un certain intellectuel qui ne se définit pas comme islamo-gauchiste, mais qui a à peu près les mêmes idées. Donc voilà, encore une fois, si vous considérez que le racisme n'existe pas, effectivement, je suis un islamo-gauchiste.
Maxime Thibault.
Le racisme existe. Mais moi, j'aurais préféré entendre une émotion.
Je l'ai pas entendu, Maxime. Vous considérez que le racisme existe en France ou pas? Alors, j'ai pas compris.
Le racisme existe
en France ou pas?
Ah oui, il existe aujourd'hui, le racisme.
Et c'est un problème de société.
Moi, je l'ai vu, le racisme. Ah. Je l'ai vu quand je suis allé devant le tribunal judiciaire en mai 2020 pour une manifestation de Madame Traoré. Je suis allé à cette manifestation et que j'ai vu, malheureusement, des gens s'en prendre à des CRS de couleur noire traité comme traître parce qu'il servait dans la police de la République.
Parfait.
Voilà. Et ça, c'est du racisme.
C'est une image d'ailleurs.
Je trouve ça tout aussi scandaleux. Mais le racisme en général, ça vous parle également. Voilà.
Il vous est plus facile.
Est-ce que le racisme
d'aller dire...
répondez à cette question qu'on Comment puisse répondez à cette question
est-ce
qu'on
que vous
puisse
pensez
aussi
qu'il y a
avancer.
Un problème,
y a-t-il du racisme en France?
Bien sûr qu'il y a du racisme en France. Il y a du racisme dans les banlieues. Il y a du racisme. Le racisme, je l'ai vécu au collège. J'étais dans un collège ZEP où il y avait 60% de jeunes issus de l'immigration. Et je l'ai vécu, le
racisme. Vous êtes en train de dire, pardon.
Je l'ai vécu, le racisme.
Et vous l'avez vous parlez de votre expérience personnelle.
Mais oui, je
Maxime.
Parle de mon expérience.
Est-ce que c'est le seul racisme qui existe?
Non, il y a un racisme dans tous les sens. Le problème, c'est que par bien-pensance, on ne doit s'attaquer qu'à un racisme et non pas à l'ensemble. Moi, je suis un universaliste. Je m'en fous de la couleur de peau. Je m'en fous complètement. Je ne vois que le mérite. Je ne vois que le travail. Je ne vois que la réussite. Le reste, je m'en fiche. J'ai un ami qui a réussi l'un des plus beaux concours, celui des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, il est noir. Et il n'a pas réussi parce qu'il est noir.
Donc vous avez des,
il a
vous
réussi.
Avez des amis noirs.
Il
non,
a réussi,
sketch, Maxime,
il a réussi parce que c'est le meilleur dans son domaine. Et personne ne le juge ainsi. Et pourtant, l'administration viendra se permettre demain de dire il y a de la diversité en le qualifiant de noir, alors que lui n'a jamais voulu réussir pour sa couleur, mais pour son mérite. Et ça, j'en voudrais éternellement à cette administration qui participe à l'intersectionnalité, qui participe à la discrimination positive, en ne comprenant pas qu'il ne faut surtout pas tomber dans ce jeu sadique qui fait malheureusement le meilleur allié de nos pires ennemis. Et je pense à la Ligue de Défense Noire, je pense à Black Lives Matter, je pense à ces gens-là.
On ne construit pas un projet de société sur des exemples personnels, Maxime.
Mais c'est facile de dire des généralités, Nicolas.
Les principes vous choquent et je comprends bien que les principes vous ennuient parce que les principes, ça oblige à la systématisation et ça oblige à la pensée. Ça oblige à partir et à sortir du fait divers pour arriver un peu à l'intellectualisme. Pardon de vous le dire, mais effectivement, en France, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des universitaires qui pensent, et aujourd'hui, on va les empêcher de penser.
Et ce sera
justement le sujet, c'est l'égalité des chances. Le sujet, c'est la lutte contre le racisme.
Mais vous dites tout et son contraire, on dirait une logorée.
Attendez.
C'est pas la logorée. Mais vous voyez, ça vous ennuie, la logorée. Vous n'acceptez plus la pensée.
Vous défendez le racialisme.
Allez, chacun son tour. D'abord, on va quitter. C'est moi qui vais mettre un terme au logorée des uns ou des autres. C'est pas le problème. J'aimerais qu'on parle de l'université, parce que c'était le point de départ, malgré tout, du débat qui nous occupe ce soir, Nicolas Corato et Maxime Thibault. On parlait justement des recherches. Une enquête est demandée au CNRS sur les recherches. Un principe a été invoqué par beaucoup d'universitaires ou de proches d'universitaires, notamment sur les réseaux sociaux, c'est celui qu'on appelle la liberté académique. Quoi que trouve ou découvre cette enquête, est-ce que c'est au gouvernement de choisir ceux sur quoi les chercheurs se penchent. Nicolas d'abord, Maxime ensuite.
Il y a un principe d'indépendance et de liberté des recherches. Après, si on considère que les universités sont infestées d'affreux gauchistes, il appartient aux uns et aux autres d'y mettre fin, si ça leur plaît, s'ils tentent une opération antidémocratique. Mais aujourd'hui, la réalité est, bien sûr, la liberté des recherches, dans un cadre qui est fixé aussi par ceux qui donnent les financements, qui sont l'État et les collectivités locales. Mais bien entendu, aujourd'hui, la liberté académique, elle doit jouer à plein, dans tous les sens du terme, dans le respect de la loi, dans le respect de l'ordre public, mais tout ça est très cadré. Et aujourd'hui, je pense que la recherche est libre dans ce pays, heureusement, n'en déplaise à certains membres du gouvernement.
Maxime.
Bien sûr, je suis attaché à la liberté de la recherche, mais bien sûr. Mais il ne faut surtout pas passer par l'interdiction pour combattre une dérive. C'est-à-dire qu'il faut passer par les idées. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne passe pas par les idées. Parce qu'à partir du moment où on les sort, on le voit ce soir, on est tout de suite attaqué de sortir des éléments sans aller vers le principe. Moi, j'ai un ami qui va passer l'agrégation. Il est souverainiste. Et il m'a très clairement dit, mon directeur de thèse m'a dit, tais-toi, arrête d'écrire sur les réseaux sociaux tant que t'as pas la grègue, parce que l'université ne regardera pas ton mérite, mais regardera ton apparence. Et si tu es sur des idées qu'on peut assimiler à celles de Madame Le Pen, tu ne seras pas agrégé. Et il est là le problème aujourd'hui, c'est-à-dire que on peut dire tout ce qu'on veut. Moi, j'ai été dans l'université, j'ai fait de la recherche dans l'université. On voit très bien que malheureusement, vous avez des prises, vous avez des laboratoires, vous avez des schémas de pensée qui vous permettent pas de penser de manière
libre. Vous êtes bien docteur en droit, Maxime.
Parce que je me suis battu, travaillé.
Avez réussi.
Bien sûr.
Et on en parlera.
Malgré vos idées, vous êtes docteur en droit. Ça prouve que ce pays est encore très tolérant.
En tout cas, on va essayer de le rester. Toujours essayer de le rester tolérant sur Sud Radio. C'est aussi pour ça que vous n'êtes pas d'accord et que malgré tout, on continuera à vous faire débattre l'un et l'autre. Merci à vous, Maxime Thiébaud, d'être intervenu ce soir. On l'a dit, docteur en droit, auteur de ce livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle. Chez VA Presse. Merci à vous, Nicolas Corato, directeur du think tank Place de la République, auteur de ce livre Grandes plaidoiries et grands procès, publié chez Eredium, la suite des vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai avec les entrepreneurs, c'est tout de suite sur Sud Radio et sur Bismart en compagnie de Stéphane Soumier.